Dans les années 1800, un fidèle prédicateur de l'Évangile, Charles Siméon, disait qu'une prédication doit remplir trois buts. 1. Nous rendre humbles. 2. Exalter Jésus. Et 3. Nous donner de poursuivre la sainteté. Et Jacques, dans son épître, poursuit exactement le même but. Et c'est particulièrement vrai dans le passage de ce matin, Jacques 1, versets 19 à 27. Son souci étant que ses frères bien-aimés, verset 19, aient une foi authentique, vivante, cohérente. Et pour ce faire, Jacques n'hésite pas à interpeller, voire mettre en garde. Au verset 22, vous pouvez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Au verset 26, vous pouvez même tromper votre cœur. Et vis-à-vis de la foi, nous pouvons tous nous faire des illusions. Et d'emblée, Jacques met en avant un test pratique, celui de notre langue, notamment versets 19 et 20. Nous avons été créés avec deux oreilles et une langue. Il semble que certaines personnes vivent comme si elles n'avaient qu'une oreille, mais deux langues. Il y a des rabbins qui ont dit avec une certaine sagesse, je les cite, « Les hommes ont deux oreilles, mais une langue, afin qu'ils entendent plus qu'ils ne parlent. Les oreilles sont toujours ouvertes, prêtes à recevoir l'enseignement. Mais la langue est entourée d'une double rangée de dents qui la protège et la maintient dans les limites appropriées. » Fin de citation. C'est joliment dit. Quand Dieu œuvre dans une vie, cela se révèle particulièrement au travers des paroles prononcées ou non. D'ailleurs, ce que nous dit Jacques renvoie au livre des Proverbes. Proverbe 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Et Jésus lui-même aborde le sujet en Matthieu 12, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, ce matin, faisons donc un test pratique. Dans un exercice de mémoire, scannez les paroles que vous avez prononcées cette semaine. Ont-elles toutes honoré Dieu ? Ont-elles toutes honoré Jésus, votre Sauveur ? Ou certaines d'entre elles vous mettent-elles dans l'embarras ? Jacques veut nous interpeller. Comme s'il nous disait en quelque sorte, « Bien-aimé, votre bonne santé spirituelle est directement liée à votre propre attitude face à la parole de Dieu. Soyez-y attentifs. Elle doit toujours plus changer votre vie. » Et dans le fil de sa pensée, Jacques prend soin de rappeler le point de départ du chrétien. Dans ce verset charnière, qui est le verset 18, je le relis, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Dieu nous a offert le salut dans sa grâce. Et c'est lui qui nous a engendrés par la parole de vérité. Alors ce matin, qui parmi nous peut prétendre « Je me suis donné la vie tel jour de telle année ?» Personne, bien sûr. Nous sommes chacun le fruit d'une union entre un homme et une femme. Faut-il le rappeler de nos jours ? Et notre vie est un don. Nous n'avons rien fait Et aussi, nous ne pouvons rien faire pour venir à cette vie. Et de la même façon, pour nous qui sommes ses enfants, son peuple, c'est Dieu qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a menés à la vie, spirituellement parlant, et cela au travers de la parole de vérité. Et là aussi, nous ne pouvons rien faire. C'est un don, un cadeau que Dieu nous fait dans sa grâce. Quand Jacques parle de la parole de vérité, il pense au message de l'Évangile. C'est ce qu'exprime aussi l'apôtre Paul au travers de ses épîtres, juste deux exemples en Colossiens 1. Nous rendons grâce à Dieu à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et aussi en Éphésiens 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ainsi, bien-aimés, pour connaître une bonne santé spirituelle, il y a deux points majeurs à considérer. Premièrement, recevoir la parole. Et deuxièmement, pratiquer la parole. Alors, recevoir la parole doit nous conduire à être humbles. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous pouvez connaître la Bible sans jamais l'avoir reçue dans votre cœur. Un jour, Jésus s'adressait à des Juifs qui connaissaient la parole de Dieu. Et il leur dit ceci, en Jean 8, verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et au travers des évangiles, nous apprenons que Jésus n'a pas seulement dit « Prenez garde à ce que vous entendez », Marc 4, mais il a dit aussi, Luc 8, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Quand Dieu, dans sa grâce, révèle sa parole à notre cœur, cette dernière prend racine en nous. Le verset 21 de notre texte emploie une image très parlante. La parole de Dieu est plantée, implantée. Elle prend littéralement racine dans notre vie. Elle fait partie intégrante de notre existence. C'est un peu comme une transplantation d'organes. Il y a implantation d'un nouvel organe pour qu'il y reste. Ne perdez jamais de vue, frères et sœurs, que c'est Dieu dans sa grâce qui vous a amené à sa vie au travers de sa parole. Nous devons toutes choses à notre Dieu et cela doit nous incliner à l'humilité. Et Jacques nous avertit en ce verset 21. Notre cœur est comme un jardin. Si nous le laissons à lui-même, il ne va que trop vite produire des mauvaises herbes, des ronces. Nous devons veiller attentivement sur tout ce qui se passe dans notre cœur. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous voulons nous détourner du mal, il nous faut adopter et maintenir un style de vie qui va à contre-courant de notre monde. Et Jacques met ici le doigt sur un des plus grands besoins de l'Église d'aujourd'hui et de celles et ceux qui sont en recherche de vérité. Beaucoup d'entre nous ne savent pas écoutés. Les médias visuels, toujours plus envahissants, altèrent sérieusement notre capacité à nous concentrer. Et par exemple, observez une série policière, et bien vous découvrirez rapidement que peu de scènes durent plus que 10 ou 15 secondes. Un professeur dans une université prestigieuse a dit ceci à ses étudiants, je le cite, « Je comprends que je suis ici pour parler et que vous êtes ici pour écouter. Espérons que nous finirons tous les deux en même temps. » Les vidéos, les podcasts, les clips sont le principal moyen d'apprentissage pour beaucoup. Seulement, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Et nous avons tous besoin de nous poser face au livre, la parole de Dieu, la Bible. Et tristement, la prière de dévotion du chrétien moderne, c'est « Seigneur, parle-moi ce matin, tu n'as que 60 secondes. » Mais suivons meilleur exemple, comme cette femme, Emily May Grimes, qui composa des cantiques et qui dit ceci « Parle, Seigneur, dans l'immobilité pendant que je t'attends. Fais taire mon cœur pour écouter. » Dans l'attente. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est si important. Si vous pensez que la parole de Dieu n'est qu'une roue de secours dans la vie, eh bien, il me faut vous dire que vous vous trompez lourdement quant à ce qu'elle est vraiment. Elle veut transformer toute votre existence. 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Le message central de la parole de Dieu étant que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts pour notre justification, et qu'en lui nous possédons la vie éternelle si nous venons à Jésus dans la repentance et la foi. C'est ce message de l'Évangile qui veut changer votre cœur, comme l'avait prophétisé Ézéchiel si clairement. Et on voit cela en Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Jacques nous exhorte donc à recevoir avec douceur cette parole de Dieu. Verset 21, un peu comme un véritable ami qui ne recherche que notre bien, désirant parler, rencontrer l'intimité de notre cœur. Mais Jacques va plus loin. Et c'est le deuxième point, il nous faut aussi pratiquer la parole. Entre les versets 22 à 25, et cela doit nous amener à ressembler à Christ, pas après pas. Même si le message central de la Bible est celui de l'Évangile, Dieu désire que son peuple grandisse, qu'il mature dans la foi. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3,16. Bien des personnes pensent que le fait d'écouter une prédication leur sera bénéfique. Mais ce qui attire la bénédiction, ce n'est pas l'écoute, mais la réception suivie de l'action. La réception suivie de l'action. Bien des chrétiens ont marqué des versets dans leur Bible, mais la Bible laisse-t-elle sa marque dans leur propre cœur? Pas seulement au fluo, mais plutôt la parole de Dieu comme étant gravée sur le cœur. Au verset 23, en comparant la parole de Dieu à un miroir, Jacques nous invite à nous examiner. Une illustration. Imaginez que vous ayez une douleur inhabituelle dans votre corps. Vous décidez d'aller voir votre médecin. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bien, tout d'abord, qu'il vous prête toute son attention, et ensuite qu'il vous dise la vérité sur ce qui vous affecte. Et même si devoir y faire face peut être difficile pour vous. Alors votre médecin vous prescrit, après vous avoir écouté, il vous prescrit un examen médical. Faites un scanner de la zone en question. Alors vous vous rendez à un cabinet de radiologie et là un spécialiste vous prend en charge. Mais ce spécialiste prend son smartphone, il prend en photo la zone en question, vous en imprime une photo couleur, puis vous dit « Ça y est, le scan est effectué, je ne trouve rien d'anormal. » Vous seriez franchement mécontent. Vous êtes venu pour un examen en profondeur et lui, il vous fait un compte-rendu en surface. Face à une telle histoire invraisemblable, ne souriez pas trop vite. Bien souvent, des chrétiens sincères lisent ainsi leur Bible en surface. Si notre seule nourriture dans la foi est un feuillet de méditation quotidienne ou la pensée du jour sur un site chrétien en ligne, le bénéfice en espéré n'en sera que trop maigre pour dire en ressortir vraiment grandi à l'image de Jésus dans ma vie. Dieu veut nous voir grandir en Christ. Il veut me voir grandir en Christ, même si pour cela, le scalpel de la parole de Dieu doit parfois me révéler ce qui ne va pas. Et la question c'est, est-ce que je suis prêt à y faire face? Jacques veut nous avertir du danger d'être négligent. Si nous n'avançons pas dans la foi, nous ne ferons pas du surplace, mais insidieusement nous régresserons. La parole est comme un miroir qui nous révèle vraiment qui nous sommes devant Dieu. Et parfois nous évitons, même soigneusement, de nous laisser sonder trop profondément, parce que trop dérangeant au fond de nous-mêmes, et nous le savons bien. Plongez vos regards dans le miroir de la parole de Dieu. Tout est là, en vue de votre salut, puis de votre croissance en Christ. C'est écrit pour votre bien. Et juste un exemple qui est un contre-exemple. En Genèse, un dénommé Lot, neveu d'Abraham, le père des croyants, a planté un jour sa tente près de Sodome. Sodome, qui était une ville rebelle et méchante. Et puis, au fil du temps, eh bien, Lot en est venu à habiter dans la ville de Sodome. On pourrait dire qu'il a fait un peu cavalier seul au regard de sa foi. Et insidieusement, cette ville rebelle a pris le dessus sur Lot. Son propre témoignage n'y avait plus d'influence, et cela même sur sa propre famille. Et quand le jugement de Dieu rencontra cette ville de Sodome, Lot, le juste, en fut délivré, comme nous le dit 2 Pierre 2, 7. Mais ce fut avec perte et fracas pour lui. Il y perdit sa femme, et ce furent des temps dramatiques au regard de sa famille. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Sachez vous poser, littéralement, face à la parole de Dieu. Dans son amour, Dieu recherche le meilleur pour votre existence. Alors, en conclusion, un dernier point au travers des versets 26 et 27. Comment la parole de Dieu transforme-t-elle notre vie? Au verset 27, ce mot « religion » décrit les pratiques apparentes relatives au culte d'un Dieu. La vraie religion, pour résumer, la vraie religion consiste à regarder à Jésus et à le suivre. Nous le verrons dans le fil de cette série. Cette parole de Dieu qui nous conduit à Jésus veut transformer votre vie. Écoutez avec vos deux oreilles le message de la Bible, de l'Évangile. Venez tel que vous êtes sans rien cacher. Car la parole nous apprend que Dieu enseigne sa voie aux humbles. Le message de l'Évangile veut transformer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Rappelez-vous ce verset d'Ézéchiel 36. C'est un message d'amour, c'est un message de grâce, c'est pour vous. Nous devons toutes choses à notre Dieu. À la fois notre vie physique, il est notre créateur à tous, mais aussi notre nouvelle naissance si nous sommes venus à lui, à Jésus, dans la repentance et la foi. Et tout cela doit m'incliner à l'humilité et à la reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Tout cela doit m'incliner à suivre Jésus et à chercher à l'imiter à cause de son amour pour moi. Plongez vos regards dans la loi parfaite, dans tout le conseil de Dieu, infusez dans la parole. Et je finirai avec ceci, le drame de Lot, c'est qu'il regarda trop au niveau horizontal, aux choses terrestres, ce qui finit par lui porter préjudice. La force d'Abraham, c'est qu'il regardait plus au niveau vertical, aux promesses de Dieu pour lui, et cela malgré ses faiblesses. Et la gloire de Jésus, c'est qu'en entrant dans le monde, Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10. Jésus l'a dit, Jésus l'a fait, et il a triomphé en nous offrant le salut au travers de son œuvre à la croix. Quel Dieu! Quel Dieu! Regardez à Jésus. Il est le sauveur des hommes. C'est la parole de vérité, c'est l'Évangile. Et elle veut aujourd'hui rencontrer votre existence. Amen.